Jacques Amblard, je vous reçois, on va discuter autour du dernier livre que vous avez publié, Les 20 regards sur Messiaen, une étiologie de la médiation. On pourrait partir d'une ironie. En lisant le texte, j'ai entendu que vous déjouez le côté vain de la chose.
La vanité, c'est simplement dans l'idée qu'il y a toujours une idéologie. Mais ça, c'est le départ de l'introduction. Il y a toujours un aspect idéologique dans un regard. Alors, les regards sont vains parce qu'ils seront idéologiques. C'est ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire que en voyant que traditionnellement, les livres ou les articles sur Messiaen sont dans une idéologie plutôt moderniste, donc qui ne font que reconduire toujours l'idée de l'esthétique de création, que tout ce que fait Messiaen est parfait, etc., ou alors c'est l'idéologie parfois catholique, croyante, chrétienne, un peu minoritaire au XXe siècle, mais bon, que certains commentateurs défendaient plus ou moins officiellement une musique croyante finalement. Et donc on pouvait avoir l'impression de mon côté qu'il s'agissait plutôt d'une idéologie postmoderne, c'est-à-dire de sortir des discours de Messiaen qui ont été reconduits par les musicologues de façon très fidèle, que ce soit plus ou moins conscient, en fait, toujours, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on n'a fait que reconduire ce que disait Messiaen de lui-même. C'est-à-dire que les commentateurs ont principalement parlé de ses modes à transposition limitée parce qu'il les a théorisés lui-même pendant la guerre dans Technique de mon langage musical, n'ont fait que reconduire très fidèlement le solfège des oiseaux parce que Messiaen lui-même l'expliquait très clairement, n'ont fait que reconduire le colorisme parce que Messiaen s'expliquait du fait qu'il voyait des couleurs partout, n'ont fait que reconduire les rythmes non rétrogradables, les valeurs ajoutées, comme s'il y avait à chaque fois une modernité incontestable dans ces techniques. Or, le résultat sonore est très différent de toutes ces théories, et j'essayais de me baser sur le résultat sonore, et comme je fais habituellement dans toutes mes approches musicologiques, j'essaie de voir l'objectivité de ce qu'on entend. Alors, un exemple que je vous donne tout de suite, parce que c'est peut-être la thèse musicologique la plus importante de ma carrière, et plus tard je pense que ça le restera, c'est une chose extrêmement simple, mais qu'aucun musicologue n'a vraiment souligné jusqu'à présent, c'est que Messiaen est la plupart du temps homorythmique. Et ça, c'est quelque chose d'une telle simplicité que l'analyse passe à travers, justement. Et aussi parce que Messiaen ne l'a jamais dit, jamais souligné. Peut-être que c'était tout simplement inconscient chez lui, ce qui est extraordinaire parce qu'écrire que des accords pratiquement partout, c'est-à-dire la moitié du temps sur une œuvre aussi fournie sans le dire nulle part, c'est quand même extraordinaire. Surtout à une époque où on n'écrivait que de façon polyphonique dans la tradition viennoise, où Stravinsky a pu faire ça de temps en temps, bon, dans l'accord du sacre, mais après ça, la verticalité de principe aussi chez Stravinsky. Alors plus lente chez Messiaen, c'est lent structure chorale, c'est extraordinaire de faire ça au XXe siècle, et encore plus extraordinaire de ne pas le dire chez Messiaen, et encore plus extraordinaire que tous les musicologues ne l'aient que parfois... Vous savez, juste annoncer comme une incidence, par exemple, les Anglais, qui sont sérieux sur Messiaen habituellement, disent « Alors voici cette pièce, c'est un choral. » Ils disent « C'est un choral. » Et puis ils ne s'interrogent pas sur le fait qu'on écrive des chorales instrumentaux au XXe siècle. Rien que le fait de consacrer un chapitre là-dessus, donc le chapitre 4 s'appelle « Le cristal », parce que j'appelle ça le cristal, si vous voulez, pour dire que c'est à la fois extrêmement organisé d'être homorythmique et que c'est transparent, justement, par son organisation même, donc l'analyse passe à travers. Eh bien, donc je pensais que rien que le fait de souligner ça, si vous voulez, c'est une thèse musicologique très simple, mais en même temps importante paradoxalement par rapport à ce compositeur d'une telle importance, puisque par ailleurs dans ce livre, qui parle surtout de réception finalement, on s'aperçoit, eh bien, que Messiaen serait devenu, selon certains chiffres, que j'ai traqué par-ci par-là, un peu comme le plus important compositeur, on va dire, de la seconde moitié du XXe siècle. Même si certains vous diront, comme Makis Solomos, que c'est un compositeur des années 30. Parce que, bon, là aussi pour une histoire d'idéologie, Makis Solomos préfère que Xenakis soit plus important, pour des raisons de, on va dire, les modernes. Être plus moderniste, c'est plus important après la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et donc, depuis 10 ans à peu près, vous disais-je, on commence à sortir. Alors certains Anglais ont publié des livres un peu plus distanciés par rapport à la parole du maître, comme Christopher Dingle, qui a réuni beaucoup de textes là depuis une dizaine d'années, et qui a écrit un bouquin sur The Late Style of Messiaen, c'est-à-dire le dernier style de Messiaen. Alors ces gens se distancient, mais c'est vraiment très récent. Il a fallu attendre, disons, 20 ans après la mort du maître, pour que, qui malheureusement était aussi musicologue, on va dire, enfin musicographe. Donc comment faire pour se mesurer à un tel musicographe, puisque du point de vue de l'enseignement, là aussi c'est un mythe, Messiaen, qui a passé près de la moitié d'un siècle au conservatoire, soit comme étudiant, soit comme professeur, et puis qui a été le grand professeur par excellence. Donc comment faire pour sortir de ces discours, c'était difficile, il a fallu du temps, et puis il a fallu notre époque postmoderne qui est impure, qui n'hésite pas, disons, à être un peu provocatrice dans ses comparaisons, puisque dans mon livre il est question parfois de John Travolta ou de Serge Gainsbourg, mais simplement pour situer Messiaen dans son époque, tout simplement, dans la mesure où ses références, tout le monde les connaît, alors que même les intellectuels aujourd'hui cultivés, parfois, ne connaîtront même pas le nom de Messiaen, étrangement. C'est-à-dire que, donc j'essaie de prouver dans, à partir de certains chiffres, certains cribles, on va dire, statistiques, que Messiaen est donc devenu le grand compositeur du second XXe siècle aux yeux du monde, aussi via la mondialisation. Et en même temps, vous avez certains intellectuels, comme un homme que j'ai rencontré dans le train et qui jouait du oud, donc un musicien, un universitaire, un homme cultivé, un universitaire en géographie, et qui m'a demandé quel était mon sujet d'intérêt actuellement. J'ai dit Messiaen, il m'a dit qui est-ce ? Donc c'est pour dire que même si c'est le plus grand compositeur du second XXe siècle, il peut être totalement inconnu de nombre d'intellectuels, ce qui est le paradoxe en fait de notre époque, où on a ce schisme entre les musiques de divertissement, comme pouvait les appeler Adorno, qui sont devenues la musique même de certains intellectuels, je dirais depuis 1968, depuis que, au fond, que Andy Warhol ait décidé que Velvet Underground était ses compagnons de route musiciens et non pas Berlioz ou même Cage.
Pour revenir, comme vous parlez, c'est en fin de compte le paradoxe que Messiaen est perçu comme un grand rythmicien. Évidemment, on aura envie de vous opposer en vous disant, mais Elliott Carter, c'est le polyrythmicien par excellence et qui est quasiment contemporain, puisqu'ils sont à une journée près de différence dans les actes de naissance, et il a une polyrythmique qui est tout le temps présente. C'est une musique construite sur la polyrythmique.
Parce que je suis toujours du point de vue de la réception. Donc Carter, j'en parle pas. Effectivement, Messiaen se disait rythmicien. Alors est-ce qu'être rythmicien, c'est être polyrythmicien ? Alors si on est homorythmique, c'est sûr qu'on n'aura pas une impression à l'écoute de rythmes quelconques, puisqu'il n'y aura pas de dialectique entre des rythmes différents. On aura plutôt l'impression, eh bien, d'entendre une voix, et, c'est-à-dire un personnage, et souvent ce personnage, quand l'homorythmie est lente, c'est Dieu le Père, ou alors c'est Saint François, ou alors c'est, en général, c'est le Père dans la Trinité. Dans la Trinité, Messiaen donne au Père toujours la lenteur, la solennité, et souvent même la lenteur terrible, comme dans, par exemple, Couleur de la Cité Céleste, c'est les lentes structures chorales au cuivre. Donc ça rigole pas. Disons l'homorythmie lente chez Messiaen. Ça peut être lent, mais avec des structures plus dédiées aux cordes dans l'aigu. Dans ce cas-là, c'est plutôt le Christ. Le Christ et sa tendresse. Parce que le Christ, moins sévère, puisqu'il s'est incarné, il connaît les hommes, alors il préfère les cordes dans l'aigu, et aussi une homorythmie parfois, mais très rapide cette fois-ci, souvent au piano par exemple, main gauche et main droite, synchrone, pour figurer un oiseau. Quand il y a un oiseau à la fois, c'est dans tout le catalogue d'oiseaux, c'est pratiquement tout le temps homorythmique, ce qui est extraordinaire là aussi. Et même homophonique parfois d'une voix à l'autre, mais rapide. Alors, du coup, il y a les structures lentes homorythmiques, c'est la voix du Père. Après, un peu plus rapide, c'est pas le fait de Messiaen. Une homorythmie plus rapide, ce serait Stravinsky du Sacre du Printemps. Puis une homorythmie plus véloce encore, ce serait le style oiseau de Messiaen, qui encadre l'homorythmie de Stravinsky de façon plus véloce, l'oiseau, ou plus lente, la voix du Père, finalement. Et bon, j'en profite pour parler d'un autre chapitre qui est pour vous montrer ce que j'ai pu étudier du point de vue de la réception. Je parlais des cordes dans l'aigu qui figurent le Christ souvent, comme dans l'Ascension ou comme dans le Christ Lumière du Paradis, le dernier mouvement d'Éclair sur l'au-delà, donc dernier mouvement qu'il est vraiment achevé de cette importance vers 1991, donc un an avant sa mort. Chez Messiaen, il y a la possibilité de texture romantique. Je ne parle pas du tout d'harmonie romantique, de mélodie romantique. Je ne parle pas de tonalité du tout, mais des textures, c'est-à-dire simplement la résonance des cordes et des mouvements dédiés même que aux cordes, ce qui pour Boulez n'était pas possible, et même pour Stravinsky n'était pas possible. Stravinsky a éjecté les cordes de l'orchestre après 1914, sauf exception comme dans Apollon Musagète, parce que c'est ça surtout qu'il ne fallait pas garder du romantisme. Alors il y a un débat sur les cordes, bon, on pourrait dire que c'est dans les années 50 que l'orchestre et ses cordes a été le plus asséché de ses cordes, cet orchestre. Après on y est revenu dans les années 60, mais la possibilité de faire des mouvements dédiés aux cordes seules, quelles que soient les harmonies, c'est extraordinaire parce que pour le public, à mon avis, ça a été comme le retour de l'objet, si vous voulez, du désir. Selon Makis Solomos toujours, il a écrit un livre donc s'appelle « De la musique au son » qui est sorti aux presses universitaires de Rennes en 2013, où il explique que finalement le paradigme du XXe siècle n'est plus la musique au sens la dialectique de notes entre elles, mais le son, c'est-à-dire finalement l'orchestration, le mixage pour les DJ d'aujourd'hui, la patte sonore, qui est devenu le grand critère. C'est-à-dire que selon Solomos, c'est à mon avis, il n'a pas tort, Varèse avait raison. C'est-à-dire que Varèse avait compris que le grand critère du XXe siècle allait devenir le timbre et non pas les notes, et non pas les degrés. C'est ce que Schoenberg, lui, n'aurait pas compris, d'ailleurs, selon Varèse. Et selon cette thèse, alors vous imaginez l'importance qui consiste à employer des textures romantiques s'il n'y a plus que les textures qui comptent de plus en plus au XXe siècle. Ça veut dire que tout simplement, dans ce cas-là, Messiaen est néo-romantique, même s'il n'emploie pas d'harmonie romantique, puisque le grand critère, ce serait le son. Alors, dans une pièce qui s'appelle « Demeurer dans l'amour », alors rien que le titre, évidemment, est séducteur. Bon, entre parenthèses, les titres où il y a « amour » dedans, est-ce qu'on connaît beaucoup de compositeurs qui ont fait ça? Quelle que soit d'ailleurs leur obédience catholique, chrétienne, athée ou quoi que ce soit, vous imaginez la séduction qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, il y a une transmission de cet amour de Messiaen aux auditeurs. On voit que les musicologues, souvent, emploient le terme « d'amour » dans leurs articles. J'ai compté le nombre de fois où il y avait le terme « amour »,« love », libre dans tous les articles autour du monde, et c'est extrêmement conséquent. Un des premiers livres importants anglais s'appelle Messiaen or the Language of Mystical Love. Vous voyez, le sous-titre parle tout de suite d'amour, donc il y a donc transmission de l'amour pour parler de la réception et de la médiation de Messiaen. Ça se fait tout simplement comme ça par des titres, vous voyez, et par la transmission de l'amour. Alors peu importe que ce soit l'amour du Christ ou pas, c'est le mot amour qui forcément n'est pas un mot qui rebute toujours. Mais pour revenir aux textures, eh bien, il y a dans les œuvres de Messiaen, finalement, qui étrangement ont compté beaucoup, les œuvres pour orchestre, souvent des textures romantiques qui viennent. L'Ascension, par exemple, 1932-33, pour orchestre, a été, d'après moi, le tremplin, c'est-à-dire l'ascenseur social de Messiaen, en même temps que l'Ascension du Christ, puisque les Américains l'ont applaudi en 1947 à Tanglewood. Ça a abouti à la commande de Turangali la symphonie, au même endroit à Tanglewood 2 ans plus tard. Et qu'est-ce qui a séduit dans l'Ascension? Le Christ, évidemment, parce qu'il y a le côté wasp des Américains, qui sont moins jacobins que les Français ou les Allemands, qui sont encore dans une croyance officielle, puisque aux États-Unis, le président dit que Dieu nous vienne en aide. Mais c'est aussi cette foi qui est servie de façon romantique par des cordes seules dans le final de l'Ascension. Donc c'est quelque chose de très traditionnaliste, et d'ailleurs ça a plu beaucoup à l'Italie mussolinienne à l'époque et à l'Espagne franquiste. Vous voyez, cette association de la foi et d'un romantisme persistant pour les textures. Ensuite, il y a Turangali la symphonie où les cordes sont très importantes aussi. Dans Jardin du sommeil d'amour, il y a beaucoup de résonance des cordes. Il y a les ondes Martenot qui sont soutenues comme dans une mélodie accompagnée par des violons, et elles deviennent comme une sorte de super violon cosmique dans Chant d'amour 1. Et finalement, Turangali la symphonie a des passages néo-romantiques, et d'après moi, c'est ça vraiment qui, en plus des passages quasiment tonales comme dans Joie du sang des étoiles, qui est comme une opérette de Broadway selon certains, c'est ça qui fait l'accessibilité de cette œuvre, tellement accessible d'ailleurs que Messiaen, d'après Tristan Murail, n'osait pas en parler à ses élèves parce qu'il avait peur de parler d'une œuvre finalement vulgaire à ses élèves compositeurs. Donc il passait ça sous silence. Or, Turangali la symphonie, qui est son œuvre la plus célèbre en fait pour orchestre aujourd'hui, a été donc applaudi aux États-Unis. On l'a entendu à la radio d'occupation japonaise, parce que les États-Unis à l'époque occupaient le Japon, et le Japon a connu Messiaen aussi à travers Turangali la symphonie avant les Français. Et finalement, la gloire de Messiaen a peut-être été ensemencée grâce aux États-Unis et une triangulation du monde entre les États-Unis et le Japon, puis l'Angleterre par capillarité anglo-saxonne avec les États-Unis, avant même que les Français ne prennent vraiment conscience de ce que pouvait être Messiaen pour le monde, finalement. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a plus, finalement, de livres importants sur Messiaen en anglais qu'en français. Parce que, depuis le départ, les Américains, puis les Anglais, nous ont ravis ce compositeur. Turangali, la symphonie est une œuvre qui a été créée aux États-Unis et elle a été créée en France plusieurs années plus tard et en Allemagne avant que ce ne soit créé en France. Qu'en fait, Messiaen est un compositeur international avant d'être un compositeur français. Et en allant au-delà des histoires de néo-romantisme, j'en profite pour parler d'un chapitre qui est le chapitre 1, où je parle de tous les discours qu'il y avait sur Messiaen, les récits dissimulés, disais-je, sur Messiaen. Et il y a un de ces récits qui, à mon avis, qui est un récit touristique. C'est-à-dire que Messiaen est une valeur esthétique touristique aussi, pas seulement, bien sûr. C'est-à-dire que Messiaen incarne le français tel qu'un Américain pourrait le rêver, c'est-à-dire avec son béret, comme on le voit sur certains documents, qui note le solfège des oiseaux, c'est-à-dire dans cette France rousseauiste préservée, c'est-à-dire cette nature idéalisée par les Américains qui savent que la France, petit pays, comporte des trésors écologiques. Vous savez que la France, longtemps, et Paris notamment, était un des pays les plus visités au monde, et que pour les Américains, c'est une sorte de jardin d'Éden. Donc il faut qu'on soit comme le commandant Cousteau, l'écologiste numéro un, le français le plus connu aux États-Unis pendant longtemps. Il faut qu'on soit écologiste, rousseauiste, pour plaire aux Américains, même plus qu'aux Français eux-mêmes. Sur un document, si vous voulez, où on voit Peter Hill, le grand commentateur anglais de Messiaen pendant des années, Peter Hill nous parle de Messiaen. Et de quoi parle-t-il? Alors, il parle de Messiaen et des oiseaux, où on voit des photos de Messiaen prenant le solfège des oiseaux avec un imperméable et un béret basque sur la tête. Il parle du théâtre Marigny, hein, c'est-à-dire finalement des années 50. Et qu'est-ce qu'il dit sur le théâtre Marigny, Peter Hill? Il dit near the Champs-Élysées, à côté des Champs-Élysées. Donc, vous voyez, Messiaen devient quelqu'un qui écrit sa musique au sein de l'architecture haussmannienne qui plaît aux étrangers. Donc, si vous voulez, Messiaen, en fait, ce que les Français n'ont pas encore peut-être compris, c'est qu'il représente la France à l'étranger plus encore que la France aux yeux des Français. C'est-à-dire une France finalement très traditionnaliste, une France qui s'intéresse plus à Jeanne d'Arc que à Jean-Paul Sartre, si vous voulez, une France qui s'intéresse à l'orgue, la France où on peut être improvisateur à l'orgue et écrire un livre d'orgue encore en 1951, et finalement une France gelée par l'idéologie des étrangers qui le voient avec un certain retard, puisqu'ils ne sont pas là pour voir l'évolution de la France. Donc en fait, Messiaen a toujours un rapport avec ses commentateurs de diachronie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mystère entre l'existence de Messiaen à cette époque et ce qu'il représente comme transition beaucoup plus ancienne. Saint Thomas d'Aquin, Jeanne d'Arc. Messiaen a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les vertus de l'analyse ». Comment est-ce qu'on peut parler des vertus au XXe siècle, sinon si on est un homme des Lumières du XVIIIe siècle, donc comme peuvent le rêver les étrangers? Voyez, donc en fait, le côté extrêmement traditionnaliste de Messiaen a servi sa gloire à l'étranger. Parce que, notamment auprès des Anglais, dont on sait qu'ils aiment certaines imageries traditionnelles, certaines architectures anciennes, et les Japonais, d'eux-mêmes, aiment finalement une certaine perpétuation, d'un certain niveau d'excellence, etc.